La Trinité. Lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 12 à 17. Ainsi donc, mes frères, nous sommes débiteurs non point à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Or, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu, car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est ce même esprit qui rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers. Héritiers, dis-je, de Dieu et co-héritiers de Christ, si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. L'Écriture sainte et sage jusque dans son silence. Vous y chercheriez en vain le mot « Trinité » pour exprimer la doctrine sur laquelle, si Dieu m'en prête la force, j'ai à cœur de vous dire quelques mots. Pourquoi ? Parce que le mot « la Trinité » présenterait à nos esprits l'idée de quelque chose de spéculatif, tandis que cette doctrine, qui a été plus tard appelée par la théologie humaine et très bien appelée, du nom de Trinité, et tout ce qu'il y a au monde de plus pratique et de plus tendre, parce que c'est l'expression même de l'amour qui est en Dieu, soit dans ses rapports avec l'humanité, soit dans les rapports intérieurs de Dieu avec lui-même. Le principe de notre salut est dans l'amour de Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu est amour, et cet amour s'est manifesté à nous dans l'œuvre de notre salut. Mais il s'est fait connaître non seulement comme nous sauvant, mais comme existant de toute éternité dans le sein de Dieu, et faisant sa félicité éternelle avant de faire la nôtre et celle de toutes ses créatures fidèles. Lorsqu'on veut se rendre compte de la manière dont l'amour de Dieu opère envers ces pauvres créatures perdues, pour leur donner la vie éternelle qu'elles ont perdue par leurs œuvres, il n'y a qu'à suivre tout simplement l'ordre historique dans lequel Dieu nous a donné ses révélations et a inspiré ses Écritures à ses apôtres après l'avoir fait à ses prophètes. C'est ainsi que nous trouvons d'abord le Dieu de l'Ancien Testament, puis le Dieu des Évangiles et le Dieu des Épîtres et de la prophétie évangélique. Dans l'Ancien Testament, nous apprenons déjà ce qui devrait suffire pour remplir nos cœurs de joie. Ô mon Dieu, déploie ta force dans mon infirmité. Nous y apprenons ce qui devrait suffire pour remplir nos cœurs de joie, c'est que tout indigne que nous nous sommes rendus de son amour, Dieu nous a pourtant aimés. Nous aurions mérité mille et mille fois qu'il se déclarât contre nous, et si quelqu'un n'était pas pénétré de cette pensée, il n'a qu'à relire les prophètes, Ézéchiel en particulier, qui sont tout remplis de cette doctrine terrible des jugements de Dieu, que les Israélites ont attiré sur eux par leurs œuvres mauvaises, mais qu'ils n'avaient pas plus mérité que le reste des hommes, dont leur histoire est comme le miroir. Mais voici qu'au lieu de se déclarer contre nous, Dieu se déclare pour nous, et nous apprenons que là où nous ne devions nous attendre à trouver qu'un trésor de colère, nous trouvons un trésor de miséricorde. Le Dieu Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, l'auteur du monde visible et du monde invisible, est pour nous, tout entier. Il ne demande qu'à nous sauver, et quiconque veut entrer dans ses pensées, confesser ses péchés et se soumettre à sa grâce, possédera la vie éternelle comme s'il n'avait point péché. Ou plutôt, il la possédera, ayant péché, mais ayant été réconcilié, avec un sentiment nouveau de la miséricorde qui est en Dieu. C'est ainsi que Dieu se révèle à nous dans l'Ancien Testament et que, soulevant ce pesant fardeau de la colère divine, l'amour divin perce partout. Ces mêmes prophètes qui dénoncent ces jugements terribles ne peuvent pas soutenir longtemps ce langage et ils finissent toujours par des paroles de miséricorde. Vous trouverez cela d'une manière très remarquable dans le prophète Michée qui, dans la brièveté de ses pages, développe avec une plénitude admirable le plan de la condamnation, de la prophétie et du salut dans lequel il finit par se reposer. arrivent les évangiles, prédits par les prophètes. Alors, Dieu fait un pas de plus. Il s'approche de nous. Il ne se contente pas de nous déclarer, comme de loin, qu'il est pour nous, mais il vient de tout près vivre avec nous, comme l'un d'entre nous, fils de l'homme pris d'entre les hommes, tout fils de Dieu qu'il est. Et après avoir été pour nous, il est avec nous, tout près de nous, comme un ami et un frère, avec lequel, selon l'expression du psaume 55, nous pouvons communiquer tous nos secrets. Alors, Dieu se montre à nous sous un aspect plus tendre encore et plus rassurant que nous ne l'avions vu dans l'Ancien Testament, surtout lorsque cet ami et ce frère vient à achever de nous révéler la doctrine de la justice divine et de la miséricorde divine en mourant pour nous sur la croix et en y effaçant nos péchés. Mais, tandis qu'un rapport si tendre se déploie de Dieu à nous, un autre rapport se déploie dans le sein de Dieu lui-même. Et nous apprenons que celui qui nous rachète est le fils de celui qui veut nous sauver, et qu'il y a entre Dieu tel qu'il s'est montré dans l'Ancien Testament et Dieu tel qu'il apparaît dans les Évangiles, le touchant rapport d'un père à son fils. Rapport que nous ne pouvons en Dieu sonder jusqu'au fond, mais que nous pouvons discerner du moins être quelque chose d'ineffablement tendre et mystérieux tout à la fois. Remarquez bien que l'un de ces rapports ne saurait aller sans l'autre, et que nous ne comprendrons jamais ce que Dieu est pour nous, en Jésus-Christ, si nous n'entrevoyons pas ce que Jésus-Christ est pour Dieu. D'autant plus qu'il y a ici quelque chose qui ne doit pas nous échapper. Nous ne comprenons dans sa plénitude l'esprit d'amour que comme esprit de sacrifice. Or, en Dieu, semble-t-il, il ne peut y avoir de sacrifice, car que pourrait-on prendre sur un seul moment de sa félicité éternelle? Mais voici que dans la personne de son Fils, le Seigneur des Seigneurs nous donne l'exemple du sacrifice. Voici que celui qui est le Fils du Père est en même temps l'homme de douleur, et que là où la plénitude de la divinité a habité corporellement, l'ineffable immensité de la douleur dont l'humanité est capable, mais dont elle n'est capable que dans cette union avec la divinité, se déploie à nos regards touchés et reconnaissants. Et ne voyez-vous pas que cette doctrine si touchante disparaît complètement si le Fils n'est pas un avec le Père, et que tout ce qui excite notre tendre reconnaissance pour le Seigneur Jésus-Christ tient à ce qu'il est véritablement Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu, comme il est Fils de l'homme, c'est-à-dire homme. Viennent les épîtres et la prophétie évangélique. Et comment s'ouvre-t-elle? Par la descente du Saint-Esprit, qui fonde l'Église tout en se répandant sur elle. C'est le troisième et dernier pas, car on n'en saurait concevoir d'autre, que Dieu fait vers sa pauvre créature déchue. Il était avec elle, et le voici qui vient s'établir en elle et se faire tellement un avec nous que de ses pauvres corps nés de la poussière et devenus esclaves du péché, il forme des temples de son esprit, le domicile de Dieu où il se complaît à reposer. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu, vient se donner à nous après avoir été pour nous dans l'Ancien Testament et avec nous dans les Évangiles. C'est le dernier excès de l'amour divin qui ne peut se contenter qu'il ne se soit fait un avec nous et qu'il ne soit venu demeurer en nous, lui en nous et nous en lui. Et ici encore, remarquez, mes chers amis, que toute la puissance de cette doctrine de vie disparaît si le Saint-Esprit, au lieu d'être Dieu lui-même, n'était qu'une émanation de Dieu, qu'une action de Dieu, qu'un don de Dieu. Car ce ne serait alors que rappeler ce que nous savons abondamment par l'Ancien Testament et par les Évangiles sur la puissance et sur la grâce que Dieu peut et veut nous communiquer. Tandis que le Saint-Esprit tel qu'il se révèle à nous dans les Épîtres et dans la fin du Nouveau Testament et dans les promesses de Jésus-Christ à ses disciples, étant Dieu lui-même, c'est la puissance de Dieu qui nous fortifie, c'est la paix de Dieu qui nous console, c'est la sainteté de Dieu qui nous affranchit du mal, c'est la vie de Dieu qui fait battre notre cœur. Oh, qui pourrait mesurer et comprendre l'immensité de ce progrès du dernier chapitre de l'Évangile au premier chapitre des Actes et se rendre compte de cette marche admirable de la révélation et des dons divins. dans les trois parties des Saintes Écritures que nous venons de parcourir, hélas, si rapidement, pour le sujet, quoique trop longuement pour les petites forces de celui qui vous parle. Admirable vue que je ne puis qu'indiquer, le rapport du Père, du Fils et du Saint-Esprit à l'homme correspond à un rapport du Père, du Fils et du Saint-Esprit en Dieu. Et l'amour qui se répand pour nous sauver est l'expression de l'amour qui a habité éternellement dans le sein de Dieu. Ah, que la doctrine que nous contemplons devient alors touchante et profonde. C'est là le fond de l'Évangile. Et ceux qui la rejettent comme une doctrine spéculative et purement théologique n'y ont donc jamais rien compris. C'est la force de notre cœur, c'est la joie de notre âme, c'est la vie de notre vie, c'est le fondement même de la vérité révélée. Je suis obligé de m'arrêter et de laisser à vos méditations les choses que j'aurais voulu ajouter, et je me borne à vous rappeler, en finissant, un mot que j'ai souvent cité en chaire, mais que quelques-uns de ceux qui sont ici peuvent n'avoir pas entendu, et qui résume admirablement toute cette doctrine. Un père de l'Église disait « Nous avons dans l'Ancien Testament Dieu pour nous, dans les Évangiles, Dieu avec nous, et dans les Actes et les Épîtres, Dieu en nous. C'est ce Dieu pour vous, avec vous et en vous. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit que je vous souhaite, comme à moi-même, pour vivre et pour mourir, du plus profond d'un cœur qui vous est dévoué en Jésus-Christ. »